de éthique pour la pommerie Dominique Philippe, le 21 février 2002 à Saint-Judas.
Je vais répondre à deux questions posées. Pourquoi chez saint Thomas la vertu de religion relève de la vertu de justice, comme une partie particulière de la vertu de justice? À la fois, la vertu de religion est plus que la vertu de justice, et à la fois, elle est moins. Autrement, la justice dépendrait de la vertu de religion. Au point de vue de l'exercice, la vertu de religion a une universalité plus grande que la vertu de justice, puisqu'elle regarde Dieu. Dieu a des droits sur nous qui sont uniques. Nos parents n'ont pas les mêmes droits sur nous. Nos supérieurs n'ont pas les mêmes droits sur nous. Là, la justice joue à fond. Dieu a des droits sur nous, mais la finalité, vous voyez, c'est là où le point de vue de la cause formelle et de la cause finale sont extrêmement importants à voir. Et on comprend très bien comment un Platon met au-dessus de tout la justice, formellement. Parce que l'objet de la justice, au point de vue formel, est beaucoup plus précis que la justice à l'égard de Dieu, c'est-à-dire la vertu. La vertu de religion. La vertu, la justice commutative, donnant, donnant. Le gosse est merveilleux dans la justice commutative. Et il dit ça d'une façon très belle. Quand vous voyez des petits gosses s'amuser et qui donnent quelque chose, je t'ai donné ça, tu me donneras bien cette chose. Tout de suite le droit. Et point de vue de l'expérience, c'est évident que la vertu de justice est quelque chose de très fondamental dans notre éducation. Mais ce n'est pas ultime. La vertu de religion va beaucoup plus loin que la vertu de justice. Alors, vous voyez, elle est partie. Si je comprends saint Thomas formalitaire et non pas finalitaire, je mettrai la vertu de justice au-dessus de tout. Et je ne comprendrai pas ce qu'il y a de propre à la vertu de religion. La vertu de religion, au point de vue final, va beaucoup plus loin que la vertu de justice, au point de vue final, puisque Dieu est ma fin, et que la justice n'est jamais une fin. Elle est un fondement très très important. Mais elle n'est pas une fin. Alors, quand on confond, comme le monde d'aujourd'hui, confond la fin et le fondement, ça c'est la grande erreur. Hein. La grande erreur qui a commencé au XIVe siècle, avec Occam. Occam fut la confusion. quand on confond le fondement et la fin, forcément, on met la justice au-dessus de tout. Platon. Et on est platonicien. Parce que la forme passe avant la fin. Et c'est le propre de remplacer la fin par la cause fine, par la cause exemplaire. C'est la cause exemplaire. Et la justice devient cause exemplaire. Et la vertu de religion est une partie de cette cause exemplaire. Vous voyez tout de suite le danger. Je traite Dieu comme le patron. Et ça existe. Je traite Dieu comme un patron, comme le premier à qui je dois respect, à qui je dois me soumettre. C'est le patron suprême. La cause exemplaire à l'égard de Dieu fait ça. Et c'est une terrible confusion, hein, parce qu'alors on met l'État au-dessus. Et ça a été le grand grief que l'Église a porté à Maurras. Maurras n'a pas été jusqu'au bout de l'aristotélisme. Il y a eu un moment. Et c'est la petite Thérèse qui a converti Maurras, qui est mort dans l'Église. J'ai vu le confesseur de Maurras à la fin de sa vie. Maurras était une intelligence très droite, mais trop la rectitude de la cause formelle et passer la finalité. Je prends Maurras parce que ça a été un moment très difficile pour beaucoup de chrétiens. Et Maurras est toujours intéressant à voir parce que c'est de mettre alors l'État au-dessus de l'Église. Et au fond, actuellement, il y a cette grande tentation, mais chez des non-chrétiens. Alors, chez des non-chrétiens, on comprend très bien. Tu vois, la fameuse violation à l'égard du droit canon qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. On a voulu prendre les papiers chez un canoniste. Des papiers qui étaient réservés à l'Église. Et l'État les a pris. Vous voyez, cette tentation terrible de mettre l'État au-dessus de l'Église. Chez un incroyant, ça se comprend. Ça se comprend, vous voyez. On dit, l'Église, c'est quelques-uns, l'État, c'est tous. Et au fond, c'est la distinction entre justice et religion. La religion regarde Dieu, la justice regarde tout le monde. Alors, si je suis athée, je considère ceux qui sont religieux comme des attardés. C'est comme ça qu'on nous regarde. Nous sommes des demeurants. Nous vivons du Moyen-Âge et nous maintenons le Moyen-Âge. Nous maintenons saint Thomas. Et c'est important de comprendre comment on nous regarde. Et c'est les rapports de justice et la religion. Donc c'est un problème capital, ça, pour maintenir un regard juste et vrai. Quand vous comparez la différence du président de la République aux États-Unis et le président de la République en France, c'est extrêmement intéressant de voir ça, de regarder philosophiquement. En Amérique, ils maintiennent le primat de la religion. en France, la laïcité est telle, parce que la laïcité par rapport au point de vue chrétien et catholique devrait maintenir le point de vue philosophique. Mettre la justice au-dessus, la justice politique, au-dessus de l'aspect religion, met toute l'humanité au service de l'État. Alors ça devient intolérable. C'est le glissement. Et il faut le saisir. Donc, si je ne regarde que la cause formelle, la justice passera toujours avant. Parce que c'est beaucoup plus évident le droit de la communauté que le droit du Créateur. Pour voir le droit du Créateur, il faut avoir découvert l'existence de Dieu. Mais celui qui n'a pas découvert l'existence de Dieu devrait respecter ceux qui l'ont découvert. Il devrait le respecter. Tandis que ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'il ne le respecte pas. Il voit la justice au-dessus de tout. Et la justice, au point de vue formel, est beaucoup plus évidente. Les droits de l'homme sont proclamés comme quelque chose de souverain. Donnant, donnant, ça se voit. Dieu, je ne le vois pas. Donc les droits du Créateur, je ne les vois pas. Et le point de vue religion respecte les droits de Dieu, les droits du Créateur. Il a créé mon âme. Puisqu'il a créé mon âme, Dieu a tous les droits sur moi. Et c'est la finalité. J'ai découvert l'existence de Dieu et du Dieu Créateur. Vous voyez, et c'est pour ça que instinctivement, sous la conduite du démon, ils arrivent à supprimer l'âme. C'est la première tactique pour mettre la justice au-dessus de la religion. Parce que si nous n'avons plus d'âme, évidemment, le Créateur de notre âme n'existe plus. Il est l'être suprême. Oui, il est quelque chose. C'est très aérien. Il a créé le ciel. Oui. Et pas la terre et pas les hommes. Et c'est la justice humaine qui passe avant tout. Alors, une fois que vous avez découvert Dieu, et que vous avez découvert l'existence de l'âme créée par Dieu, naturellement, on peut le prouver. Ce n'est pas une question de foi, c'est une question d'intelligence. La vertu de religion, c'est une question d'intelligence. Et donc, ce n'est pas une question de foi. La religion, l'aspect religieux doit être défendu comme une exigence naturelle. Et c'est une exigence naturelle. Je dois respecter Dieu, le Créateur de mon âme. Si je ne parle plus de l'âme, et que je ne vois plus que le corps, je vois les causes secondes et plus la cause première. Alors, la justice regarde les droits de l'autre. le Créateur a ses droits, puisqu'il a créé notre âme. Et c'est les droits de l'autre. Donc vous voyez la parenté entre la justice et la religion. Et comme la justice est plus immédiate au point de vue connaissance, facilement, on ne regarde que ces droits-là. Les droits du Créateur, je les écarte. Alors vous voyez cette chose terrible. Si on ne voit plus l'âme comme une réalité plus profonde que mon corps, qui dépend de mes parents, très facilement, l'aspect religieux disparaît. Si je regarde le point de vue de la distinction de l'âme et du corps, je vois que je suis en communauté politique à cause de mon corps, pas à cause de mon âme directement. C'est parce que mon âme informe mon corps que je suis un citoyen et que je dépends d'un tout. C'est par le corps. Il n'y a pas de politique chez les anges. Non. Bien heureux. Ils n'ont pas de politique chez les anges. Tandis que l'homme, à cause du corps, nécessairement, dépend de la famille, et la famille dépend de l'État. Puisque l'ensemble des familles forme un État. Et alors, très facilement, puisque c'est la chose que je vois, le corps, l'âme, je ne la vois pas. Très facilement, la justice à l'égard de l'État passera avant. Si mon corps prend tout. Et si mon âme est ordonnée à mon corps, la justice, la religion est ordonnée à la justice. Et ce que je vous disais tout à l'heure. Alors que si je distingue l'âme du corps, je vois que c'est Dieu qui a créé mon âme, Dieu créateur. Et donc, à l'égard de Dieu, je respecte ses droits comme étant les droits fondamentaux, premiers. Et la vertu de religion est la vertu qui rectifie toutes les relations de l'homme à l'égard de Dieu, du Créateur. C'est pour ça que c'est une vertu très très particulière, puisque mes relations avec le Créateur sont premières et finales. À la mort, le point de vue de la justice à l'égard de l'État disparaît. Il est bien évident que la mort, au point de vue politique, on les fait revivre au moment des élections. Parce que c'est le grand truc d'avoir la voix des morts. Alors évidemment, celle-là n'est que corporelle. Et c'est ceux qui ne voient dans leur programme que le point de vue du corps. Et la vertu de religion disparaît. Donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du corps et la place du corps joue. Et me permet de comprendre la distinction entre la vertu de religion qui fait que je regarde les droits du Créateur à l'égard de mon âme et par mon âme à l'égard de mon corps, et le point de vue de la justice, qui est les rapports d'égalité avec les autres hommes et à l'égard du tout que représente le pays, la nation. Vous voyez, c'est très curieux cette rivalité entre justice et religion. C'est très vieux, ça. C'est intéressant de voir à travers le développement de la philosophie, ça a pris des valeurs toutes différentes. Et la première grande différence, c'est Platon et Aristote. Ce serait une très belle thèse, ça. Montrer les relations de la religion et de la justice chez Platon et chez Aristote. Parce que là, c'est l'avantage que c'est lointain. Vous ne prendrez pas des candidats vivants en montrant que les deux grands candidats, l'un respecte la religion, l'autre ne la respecte pas. Donc il n'y a que la justice. Et une justice qui ne respecte pas la religion devient une fausse justice. Alors ça, c'est très très intéressant à montrer. Parce qu'elle oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est mon âme. C'est pas que je sois citoyen. Remarquez, chez le maire, je suis né à telle date, mon corps est né à telle date. Tandis que mon âme est antérieure à ça, elle est plus fondamentale. Et la religion regarde les droits de Dieu sur moi, les droits de mon Créateur. Vous voyez ? Il y a là quelque chose d'extrêmement important. Et regarde la philosophie. Hein. Ça regarde la philosophie. C'est regarder les relations entre le point de vue de la justice et le point de vue de la vertu de religion. C'est deux philosophies totalement différentes. Puisque l'une, on regarde la dépendance de l'âme à l'égard de Dieu et par l'âme du corps, l'autre fait passer le corps avant. Donc, voyez là un problème fondamental, très important. Deuxièmement, l'expérience contemplative, naturelle de Dieu, n'est-elle pas au-delà de la prudence ? Bon, je vous ai dit, il ne faut pas l'oublier, qu'il y a une expérience contemplative naturelle de Dieu. Prenez comme exemple le point de vue de Plotin, ce néo-platonicien. Plotin, les entretiens de Plotin, puisque Plotin n'a pas écrit, mais c'est son disciple. Les entretiens de Plotin, il y a des choses très belles, très grandes, sur la dépendance à l'égard de Dieu, sur l'expérience contemplative de Plotin. Puisqu'on l'a trouvé pendant 2 jours ou 3 jours en extase. Saisi par le regard de Plotin sur Dieu. À tel point qu'on se demande si Plotin n'a pas eu certaines influences chrétiennes. sur le Dieu véritable. Parce qu'il y a des choses très très belles de Plotin sur Dieu et l'expérience religieuse, l'expérience contemplative. Alors, je prends, au point de vue philosophique, Plotin. Je peux regarder aussi l'expérience philosophique que nous avons naturellement de Dieu. Découvrir l'existence de Dieu est un point de vue naturel. C'est mon intelligence. Il y a le secours de Dieu, c'est évident. Mais c'est proportionné à la capacité de l'intelligence. L'intelligence humaine est capable d'affirmer l'existence de Dieu. C'est une vérité de foi, ça. L'Église l'a dit. C'est la grosse différence qu'il y a entre nous et les luthériens. J'ai fait une fois un petit dialogue avec un pasteur luthérien. Il s'appelait le pasteur Finet. Comme je connaissais bien le père Finet, c'était intéressant de voir le pasteur Finet. Et on y a dialogué ensemble au point de vue philosophique et au point de vue de la foi. Bon, il y avait des choses communes, mais un point où il s'est réveillé luthérien, c'était la question, la découverte naturelle de l'existence de Dieu. Alors là, je voyais le luthérien. L'intelligence humaine a été blessée par le péché. Ça, c'est la position luthérienne. L'intelligence humaine a été blessée par le péché. Parce que l'intelligence humaine a été blessée par le péché, l'intelligence humaine ne peut plus, par elle-même, découvrir l'existence de Dieu. Donc la découverte de l'existence de Dieu ne peut être que par la foi. Mais il y a des quantités de chrétiens qui actuellement, sans le savoir, ont cette même position. Alors que l'Église a toujours affirmé que l'intelligence humaine peut, par elle-même, découvrir l'existence de Dieu. La découverte de l'existence de Dieu est donc un point de vue au-delà de la métaphysique, mais toute la métaphysique est faite pour ça. Ça, c'est très important de voir que la position catholique a toujours été de maintenir que l'intelligence humaine était capable de découvrir l'existence de Dieu. Parce que l'intelligence humaine n'a pas été marquée par le péché. Le péché n'a pas détruit l'intelligence humaine. L'intelligence humaine fait partie essentielle de la nature humaine. Or, la nature humaine n'a pas été touchée par le péché. Mais le pos de la nature humaine, l'exercice de la nature humaine, alors ça c'est évident, l'exercice de découvrir l'existence de Dieu à cause du péché, l'imagination a augmenté énormément son rôle, sa place, et l'imagination arrête la possibilité de découvrir l'existence de Dieu. C'est pour ça que tellement peu de chrétiens, même de chrétiens catholiques, acceptent actuellement la possibilité pour l'intelligence humaine de découvrir l'existence de Dieu. À la rigueur, ils acceptent la possibilité Mais il dit, c'est très rare. C'est vrai que si on regarde la plupart des hommes, aujourd'hui, dit que notre intelligence humaine ne peut pas découvrir par elle-même l'existence de Dieu, qu'il faut la grâce. Et l'Église catholique maintient, jusque dans la dernière encyclique du pape, Foi et raison, l'encyclique maintient que naturellement, l'intelligence humaine est capable de découvrir l'existence de Dieu. Donc, l'intelligence humaine est capable d'affirmer qu'il existe une vertu de religion et que pour être profondément humain, il faut soigner cette vertu de religion. Refuser la vertu de religion, c'est amoindrir l'homme. Bien, il existe donc une certaine contemplation naturelle de Dieu. Cette contemplation naturelle de Dieu est au-delà de la prudence. Ce n'est plus la prudence qui doit tout diriger, mais c'est la sagesse, la découverte de Dieu. La découverte philosophique de Dieu me permet de dire que mon intelligence humaine est capable de juger la valeur des choses, l'importance des choses dans la lumière de Dieu. Mais très peu de monde aujourd'hui accepte ça. C'est un élément essentiel de saint Thomas. Et pour nous, l'encyclique Ratio Fidei nous montre que saint Thomas a parfaitement raison de dire ça. Au fond, Aristote, dans l'Antiquité, l'a affirmé. Saint Thomas, dans la tradition chrétienne, l'affirme. Et l'Église l'a toujours maintenu. Que le plus grand danger pour l'Église, c'est le fidéisme. Alors le fidéisme, c'est de prétendre que seule la foi me permet d'affirmer l'existence de Dieu. Et c'est le plus grand danger. Pas précédent, celui-ci, l'affirmait avec une très grande force, Paul VI, l'affirmait avec une très grande force, et le pape actuel l'affirme également dans son encyclique. Alors, pourquoi cette affirmation, cette expérience contemplative naturelle de Dieu est au-delà de la prudence? Parce que elle me fait atteindre ma fin naturelle. Ma fin naturelle ne peut être que Dieu. La prudence, elle, me montre les moyens pour l'atteindre. Les moyens pour l'atteindre présuppose que j'affirme que Dieu est ma finalité. Donc, je vois comment cette affirmation de l'existence de Dieu est au-delà de la prudence. Je dirais que l'affirmation de l'existence de Dieu est, par le fait même, une attitude religieuse. Modifie ma prudence. Autrement dit, la prudence naturelle d'un athée est totalement différente de la prudence naturelle d'un homme qui a découvert l'existence de Dieu. Au fond, celui qui n'affirme pas l'existence de Dieu est d'une souveraine imprudence. Il peut être sincère, mais c'est une souveraine imprudence d'affirmer que Dieu n'existe pas. Alors là, on a la parole de l'Écriture. Incipiens in corde suo non est Deus. Incipiens, donc l'insensé, dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Donc vous voyez, dire Dieu n'existe pas, c'est une imprudence terrible, la plus grande des imprudences. Parce que l'affirmation que Dieu existe rectifie ma prudence et permet à ma prudence d'être juste. Donc, si elle permet à ma prudence d'être juste, elle est au-delà de la prudence. Parce que la prudence est regarder la relation des moyens avec la fin. Donc, l'affirmation de la fin est au-delà de la prudence.